Bonjour et bienvenue dans cette émission proposée par le Centre de réflexion chrétienne d'Eure-et-Loir. Avec vous cette semaine, Pascal Dupré. Je reçois aujourd'hui Karima Berger, écrivain. Bonjour Karima, merci d'être avec nous sur Radio Grand Ciel.
Bonjour.
Vous êtes, Karima, une femme des deux mondes, une femme de dialogue. Dans « Éclat d'Islam, chronique d'un itinéraire spirituel » paru chez Albin Michel en 2009, vous écrivez « Je suis arabe et française, orientale et occidentale, musulmane et laïque, femme et écrivain. Ces sources qui m'animent m'inventent chaque jour, et c'est dans les méandres de leur flux que je surprends parfois mon reflet, mes reflets. » Pouvez-vous nous parler de cet itinéraire ?
Volontiers, volontiers. Oui, c'était une façon, dans cette phrase où je donne toutes mes identités, où je décline toutes mes identités, il s'agissait de ramasser en une formule un peu synthétique tout ce qui m'avait fondée, tout ce qui m'avait construite, à la fois mon arabité. Je suis née en Algérie, j'ai grandi en Algérie, je suis arabe, sans doute il y a aussi quelques graines de berbérité. Et puis je suis française aussi parce que je vis en France depuis maintenant fort longtemps. Je suis inscrite dans cette société, je suis française de nationalité, je suis française de culture aussi, puisque même en Algérie, puisque l'Algérie était française, je suis née en 52, même en Algérie j'étais déjà un peu française, hein, certes avec un statut un petit peu particulier, mais j'étais déjà cet enfant des deux mondes qui est le titre de mon premier ouvrage. Je suis orientale parce que dans mon islam, dans ma façon de vivre ma culture arabe, je suis orientée, je suis tournée vers l'Orient de mes ancêtres, de ma famille, de mon livre sacré, de mon Coran. Et puis je suis occidentale parce que j'ai été élevée à la lumière de Victor Hugo, de Rimbaud, de Baudelaire, des lumières occidentales. Toutes ces choses-là, je suis musulmane, bon, je le dis parce qu'on me le demande, mais sinon je n'ai pas à le proclamer. Je suis musulmane et je suis laïque, c'est-à-dire au sens je suis d'abord inscrite dans la société laïque française, et mon islam, il est secret, il est intime, j'en parle parce que on me le demande et puis parce que je pense qu'il faut faire entendre la voix d'autres musulmans qui disent autre chose que ce qu'on dit, mais je suis laïque fondamentalement, c'est-à-dire que pour moi c'est d'abord l'identité laïque qui intervient. Et puis derrière, il y a toutes ces couches dont nous sommes tous faits, bien entendu. Et puis femme, bien entendu. Et bien sûr, écrivain. Oui. Voilà cet itinéraire qui est plusieurs sources et qui m'anime parce que je vais boire à l'une, à l'autre, je reviens, je repars. Et puis elles se reflètent les unes dans les autres. C'est ça qui est étonnant. On croit que c'est le grand écart entre les deux, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que quand on creuse, on trouve la même figure, la même eau, hein, oui. L'eau n'a que la couleur de son récipient. Mais si vous prenez l'eau, c'est la même couleur.
Oui. Je t'entends dire mon Coran.
Oui. Oui, oui, je dis mon Coran parce que quand on dit le Coran, mais c'est quoi ? C'est qui l'a lu ? Qui peut dire le Coran ? Qui peut dire ? Je veux dire, c'est un texte tellement à la fois poétique, à la fois complexe, à la fois immense, à la fois poétique, à la fois troublant, contradictoire, miséricordieux, généreux. Mais chacun va y trouver de quoi se nourrir. C'est comme la Bible, c'est comme les évangiles. Vous prenez même un des évangiles, je sais pas, l'évangile de Saint Matthieu par exemple, même il y a ces deux catholiques qui le lisent, peut-être qu'ils le liront différemment, parce que il y aura que la face, une face des évangiles qui leur apparaîtra plus lumineuse alors que l'autre verra l'autre face qui sera aussi lumineuse, mais ce sera une autre lumière. Chacun, avec son background, son passé, son histoire, lit son livre sacré, le lit avec ce qu'il est. Si j'avais été née en France, si j'avais grandi en France, peut-être le Coran, je le lirais différemment.
Oui, bien sûr.
Je ne sais pas si je me fais entendre.
Si, j'entends ce que tu dis. J'ai lu dans Égir, ton essai paru cette année chez Actes Sud, l'identité est un mythe. Elle change tout le temps et ses racines ne sont jamais pures.
Oui.
C'est la conférence qui sera tenue à Chartres le 16 novembre s'intitule « Identité multiple au risque des exils ». Pourquoi le choix de ce titre ?
Le titre de Égir ?
Oui, d'Égir et de « Identité multiple au risque des exils ».
C'est ça. Identité multiple parce que le mot « identité », si on le reprend en latin, c'est « id est ». Ça veut dire « ceci est ». Ceci est. Hein. Mais l'identité au sens bétonné, bétonné du terme, elle n'existe pas. Elle existe de façon très générale, comme on dit l'identité européenne, opposée ou en tout cas en relation à l'identité sud-américaine. Mais plus on s'approche de l'individu, et plus l'identité va se décomposer en un millier de reflets, en un millier de couleurs. Donc, et là, l'identité va se déployer. Je suis arabe et française, je suis musulmane et laïque, je suis... Donc, vous voyez, vous avez des grands blocs d'identité, identité chrétienne, identité musulmane, encore que ça ne veut plus dire grand-chose. Mais quand on s'approche de l'individu et du croyant lui-même, à ce moment-là, chacun y apporte sa couleur. Et je voudrais juste citer l'émir Abdelkader, qui est ce grand monsieur, je ne sais pas si on aura le temps peut-être d'en parler, mais j'en parle maintenant parce que c'est vraiment mon maître intérieur. C'est ce grand guerrier, bien sûr, algérien, qui a combattu la colonisation française et l'injustice, et puis qui a ensuite démissionné, qui a renoncé à la bataille militaire, considérant que l'armée française était bien plus forte que les armées de ses tribus. Et puis, c'est un immense mystique. Ce que je veux dire, c'est qu'il a au moins deux identités. Hein. Il a l'identité d'un chef d'État, le premier chef d'État algérien, mais c'est aussi un immense mystique, un immense lecteur du Coran. Et il dit que Dieu, il est ceci et cela, que personne ne peut l'approcher que d'un seul versant, comme une montagne. Hein, vous connaissez... La métaphore des différents versants pour remonter au sommet d'une montagne. Donc Dieu est ceci et cela. Et personne ne peut le connaître sous tous ses aspects. Et personne ne peut l'ignorer sous tous ses aspects. Même si vous voulez ignorer Dieu, il y a quelque chose en vous qui ne l'ignore pas. Donc les identités, elles sont pour moi par définition multiples. Et je prends... la métaphore de l'arbre, vous prenez une forêt, vous prenez un paysage, eh bien l'arbre, il n'est jamais seul. Si vous creusez, vous trouverez que les racines de cet arbre-là sont souchées, sont proches, ou sont alliées, se sont nouées aux racines de l'autre arbre. Voilà, donc l'identité est une sorte de mythe, de grand mythe, qui peut faire beaucoup de bien et qui peut faire beaucoup de mal.
Oui, et c'est là où tu dis qu'elles ne sont jamais pures.
Elles ne sont jamais pures, le mot « pur » est terrible, alors là, lui, il ne fait que du mal pour moi.
Oui, oui.
Voilà, pour moi, c'est le mot « pur » me fait très mal parce qu'il me rappelle... Il me rappelle le nazisme, il me rappelle cette volonté de purifier. Mais qu'est-ce que c'est que purifier ? Purifier la culture, on purifie le sang, oui, comme on dit le sang contaminé, mais on ne purifie pas un homme. Un homme, il se purifie de l'intérieur. À la fois ses ablutions, mais même Jésus dit les ablutions, vous savez, c'est des ablutions de l'intérieur. On a beau se laver, si notre cœur est sale, si notre cœur est souillé, on restera impur. Donc le mot pureté est un mot qui fait très mal, et l'identité n'est jamais pure.
Oui.
Qui peut donner l'exemple d'une identité pure?
Oui. Et pourquoi au risque des exils?
Au risque des exils, parce que toute identité, j'arrive en France, je considère quelque chose en moi me dit que je suis algérienne, que je suis arabe, que je suis du tiers-monde, que je suis d'un pays ex-colonisé, je peux exagérer comme ça mes identités multiples, et je vais prendre le risque de m'exiler, de me frotter à d'autres identités, peut-être de me blesser, peut-être de me faire mal, et peut-être de m'enrichir, et peut-être de creuser ma propre identité. Et au risque des exils, je pense à tous ces migrants d'aujourd'hui qui viennent d'ailleurs, les chrétiens d'Orient, encore que cette expression, pour moi ils sont d'abord orientaux et puis ils sont chrétiens parce qu'ils habitent en Orient avant même les musulmans, qui viennent en France, qui viennent en Europe et qui vont se frotter à une autre langue, à une autre culture. Donc ils prennent le risque, c'est toujours un risque. Mais c'est un risque, qui peut être néfaste. Alors après, il faut voir comment le prendre. Est-ce qu'on se défend, on s'enferme et on met un bouclier devant soi pour ne pas rencontrer l'autre? Mohamed Dib, qui était un très grand écrivain algérien, disait « Un migrant qui reste migrant toute sa vie » est un exilé raté. Mmh. Vous voyez, il est raté parce que il ne sait pas il ne sait pas frotter à l'autre. Et si on s'est exilé, c'est quand même parce qu'on veut aussi, Rimbaud disait, aller trafiquer dans l'inconnu, c'est-à-dire aller voir cet autre-là qui nous fait face et qui a des ressources immenses et qu'on a envie de connaître, qui nous fait peur en même temps. C'est ça le risque.
Mmh, merci. On a, donc je comprends, des identités multiples à gérer, et vous vous présentez musulmane, femme et écrivain, et qu'est-ce qu'on peut dire de la place de la femme dans l'islam, enfin dans la révélation faite au prophète Mahomet?
Oui, c'est une question qui revient souvent, c'est une question qui intrigue, voilà, c'est le genre de questions qui nous met face à l'altérité. Pourquoi les femmes sont si différentes en islam? Pourquoi? On a envie de creuser, on a envie de comprendre. Pourquoi elles ne sont pas comme nous? Mais nous, est-ce qu'on se souvient, enfin nous maintenant, les occidentales, parce que je suis aussi occidentale, est-ce qu'on se souvient aussi de ces femmes de la Bible, de ces femmes des évangiles, qui ne sont pas les femmes d'aujourd'hui? Et donc, c'est la question. Pourquoi ces femmes dans l'islam sont différentes? Elles ont un statut différent. Alors, moi j'ai une hypothèse, mais c'est la mienne, elle n'engage que moi. Mais je pense que si on regarde au long cours toute l'histoire des religions, les femmes, je pense, ont toujours eu ce rôle d'intermédiaire du sacré, comme si le divin ou Dieu... cette identité transcendantale avait besoin de quelque chose de féminin pour se manifester. Et que les femmes, si elles sont voilées, par exemple en islam, ou si elles sont enfermées, elles ne le sont pas, mais si elles ont été dans des harems, et si elles ont été enfermées, elles n'avaient pas le droit de sortir, ou moins sortir, c'est pas parce qu'elles sont des déchets. C'est au contraire parce que elles sont quelque chose du sacré. Elles détiennent quelque chose dans leur corps, dans leur intimité, peut-être dans leur fonction de maternité, peut-être dans leur posture d'abandon à Dieu, ou même d'abandon à l'homme, ou de soumission, entre guillemets. peut-être qu'elles ont quelque chose de l'abandon à Dieu, c'est-à-dire qu'elles manifestent dans leur corps, dans leur être, la posture que tout croyant doit avoir vis-à-vis de son Dieu. Et là, je reviens à l'islam. Islam veut dire soumission, mais soumission non pas au sens servile du terme, au sens noble du terme, au sens de « je me soumets, je m'abandonne à mon Dieu ». Et qui s'abandonne le mieux si ce n'est une femme, si ce n'est le féminin, qui sait, lui, se soumettre à la force du divin. Alors, le prophète Mohammed, vous savez que je le dis, mais le premier musulman est une femme. C'est sa femme, ah bon, Khadija, alors que lui avait des révélations... de l'ange Gabriel qui venait lui parler, et il était extrêmement inquiet, se demandant si c'était le diable ou si c'était vraiment l'ange Gabriel. Il était en proie à une très très grande angoisse, et sa femme lui dit « Je sais que c'est l'ange Gabriel, que c'est Dieu qui te parle. » Et c'est elle la première convertie. C'est une femme qui sait reconnaître la présence d'un Dieu ou du diable. Voyez ? Je pense aussi, ça c'est ma connaissance de la Bible, mais qui est quand même assez, je ne dis pas superficielle, mais quand même, c'est Marie-Madeleine qui reconnaît le Christ. C'est quand même une femme, ce sont les femmes qui reconnaissent la résurrection, le Christ, quand même. Oui, c'est absolument magnifique. Et on trouve d'autres exemples comme ça, où Marie, dans son acceptation, quand l'ange Gabriel vient la voir, vient la féconder de l'esprit, comme on dit en islam, vient la féconder, ben là, d'abord un mouvement de peur et d'angoisse, et puis ensuite elle se laisse, comme on dit en islam, elle se laisse dilater, son corps, son ventre se dilate pour accueillir le Verbe divin en elle. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment des postures masculines, cela. Je ne pense pas. Oui. Alors, je pense que c'est la place de la femme dans l'islam s'origine dans cette dimension du sacré, dans cette dimension de l'histoire religieuse, de la révélation prophétique, d'où peut-être le fait qu'il y ait ce décalage entre la modernité que nous voyons aujourd'hui et ce statut qui reste un peu sacralisé. Moi, je suis persuadée qu'on peut rester et musulmane et moderne. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de femmes, certes, elles portent le foulard, mais mon Dieu, comme elles sont actives, mon Dieu, comme elles sont, comme elles transmettent dans leur famille, c'est elles qui tiennent debout. En Algérie, je le vois, ce sont les femmes qui vraiment tiennent le pays. Elles sont voilées, mais qu'importe. Qu'importe, il faut juger sur les actes, et c'est elle qui élève, c'est elle qui travaille, c'est elle qui ramène de l'argent dans la maison, c'est elle qui se tape je ne sais pas combien d'heures de transport pour aller à l'autre bout de la ville pour travailler. Elles sont admirables, absolument admirables.
Et c'est elles qui vont permettre à l'islam d'accoucher de sa propre modernité ?
J'aimerais bien, oui, oui, c'est mon souhait secret, oui, parce qu'elles font la preuve. Elles font la preuve que c'est possible et de travailler et de sortir et de rester proche de leur Seigneur, proche de leur foi. Je veux dire, les femmes au Moyen-Âge en Occident étaient voilées, hein, elles portaient, et encore au 19e siècle, au début du siècle, les femmes portaient un foulard ou portaient un chapeau. Le chapeau, c'est le lointain, on oublie, mais le chapeau, c'est quand même le petit descendant du voile.
Du voile, oui.
Oui, on l'oublie, mais le chapeau, c'est pas juste un acte esthétique. Voilà, je pense qu'elles peuvent faire la preuve que tenir les deux, hein, toujours les deux, hein, moi je suis toujours une femme des deux mondes, tenir les deux ensemble, c'est ça la complexité, c'est possible, et donc faire la preuve que la modernité de l'islam est possible, et il ne s'agit pas de revenir à l'islam du 7e siècle, mais il s'agit de l'accoucher aujourd'hui. Et l'accouchement, comme vous dites si bien, effectivement, de féconder et de mettre au monde cet islam que j'espère.
Je reviens peut-être à ce que dans les attentifs vous écrivez « Haïti il soum ». Je cite hein, « Ton altérité juive n'a cessé de nourrir l'universalité de ma pensée musulmane, de libérer mon Dieu des défigurations qui le menacent, à mon tour en silence, loin de ce bruit de fond persistant, je veux éprouver dans mon intimité sa présence, la Sakina, et l'abriter dans ma chambre haute. » Et vous concluez « Et à la catastrophe, je fais une place dans ma vie. » C'est quoi cette catastrophe ?
J'avais envie de dire « devinez ». Regardez autour de vous, hein. La catastrophe, c'est quand on dit le mot islam et un effroi, un éclair d'effroi passe dans les yeux de votre interlocuteur. Bon, peut-être j'exagère le trait, mais le mot islam est devenu un mot, est devenu comme une bombe, est devenu comme une bombe à fragmentation. On a peur, c'est ça la catastrophe. La catastrophe, c'est qu'est devenue ma société musulmane, de mes grands-parents, de mes parents en Algérie, qui vivaient dans une petite ville à Médéa. Et malgré l'injustice coloniale, quand même, hein, il faut se rappeler, n'ont jamais brûlé, il n'y a jamais une église qui a été brûlée, jamais. Je pense toujours au Père Hamel. Moi, j'étais dans un petit village en Bretagne quand il y a eu cet attentat, et la première chose, c'est que j'ai été priée dans l'église du coin, un village de Plévenon en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Jamais une église n'a été brûlée. C'était la colonisation qu'il fallait combattre. C'était pas les chrétiens, vous voyez. C'était pas. Et donc cette catastrophe, ben c'est ça. C'est comment au nom de l'islam on peut perpétrer de tels crimes. Comment on peut opérer une telle régression. Le monde. Je pense que c'est la plus grande catastrophe qui est arrivée à l'islam aujourd'hui. Il y a eu de la catastrophe coloniale, etc. Mais je pense que c'est la plus grave parce qu'elle est culturelle. L'islam perd le noyau de sa culture, le noyau mystique de sa culture. Elle est économique, elle est politique, elle est militaire. Vous regardez le monde arabe et islamique aujourd'hui, c'est l'effondrement partout, partout. Bon, il y a des forces. Il y a le progrès, bien sûr, il y a toujours de la lumière ici et là, quelques points lumineux qui veillent, des vigies, mais peut-être est-ce le pétrole, peut-être est-ce, s'il n'y avait pas ces richesses pétrolières, peut-être que le monde arabe ne serait pas dans ce tel état. Donc la catastrophe, est-il soum l'a apprise parce qu'elle est juive, parce qu'elle est morte à Auschwitz, que le peuple juif a connu sa catastrophe avec la Shoah. Et je ne dis pas que c'est la même chose, mais le mot catastrophe n'appartient à personne. Et je considère qu'il y a une forme de catastrophe qui arrive aujourd'hui à la culture et à la civilisation musulmane. Il faut que nous la traversions.
Vous avez été présidente de l'association Écriture et Spiritualité pendant 3 ans. Et vous avez récemment dialogué avec Mgr Henri Tissier, évêque émérite d'Alger, autour d'une question: comment vivre au quotidien l'altérité spirituelle, comment s'enrichir du chemin de l'autre vers Dieu. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cet échange?
Écoutez, c'était un très bel échange, parce que j'ai une grande admiration pour Mgr Tessier, pour cet homme plus que le dialogue, enfin le mot dialogue est un euphémisme, c'est un homme qui cherche, et puis je l'admire parce que c'est un homme qui est rentré un peu dans l'islam, voilà. Parce que j'avoue que ce que je regrette aujourd'hui, c'est que on a du mal à entrer dans cette culture. Bon, je sais qu'elle est très défendue aujourd'hui et qu'elle est, mais il n'a pas essayé de comprendre, parce que justement, donc, alors cet essai, pardon pour cette diversion, cette rencontre, J'ai eu beaucoup de gratitude pour lui parce qu'il m'a invité à dialoguer avec lui. Et il a rappelé combien sa vie en Algérie de moine, ensuite d'évêque, enfin de, c'est pas de moine, pardon, mais de prêtre, l'altérité, la rencontre avec l'Algérien, avec le musulman, combien ça avait nourri sa propre foi. Et ça, c'est assez magnifique. Mmh. Et nous avons conclu tous les deux que peut-être il ne s'agit pas de comprendre, parce qu'on veut toujours expliquer, comprendre, mais on ne comprend pas une foi. Et je disais, peut-être il faut se laisser émouvoir par la foi de l'autre. Peut-être que c'est le premier acte de dialogue. Peut-être le dialogue, c'est pas comprendre. Bon, alors on sait qu'on a des divergences sur la nature de Jésus ou sur la crucifixion de Jésus. Bon, moi je remets pas en cause. C'est comme ça. Mon islam dit autrement. Donc je vais pas remettre en question cette religion de 21 siècles, hein, c'est ça, bientôt. Mmh. Mais je me laisse émouvoir par Monseigneur Tessier quand il parle de sa foi. Et déjà, ça, c'est un dialogue. Déjà, c'est une proximité. C'est tous ces chrétiens qui ont vu des musulmans se prosterner dans une mosquée ou dans le désert et qui ont été frappés d'une foi soudaine. Je pense à Massignon, je pense au père de Foucault. Voilà, c'est se laisser émouvoir et pas seulement toujours vouloir comprendre, expliquer. Bon, bien sûr, on a besoin de quelques petits détails historiques sur l'islam, la naissance de l'islam, ce qui nous distingue les uns des autres. Mais la façon dont le croyant prie, dont le chrétien prie, comment il se rapproche de Dieu, comment oui. Moi je me rapproche de Dieu, je pense que c'est ça le dialogue.
Et comment on s'enrichit du chemin de l'autre vers Dieu, c'est ça, effectivement, c'est je ça. Pense, une,
le voyant,
extrêmement important. Merci Karima et pour cet entretien.
Merci beaucoup à vous. À bientôt.
Oui, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. N'hésitez pas à venir rencontrer Karima Berger pour la conférence « Identité multiple au risque des exils » le jeudi 16 novembre à 20h30 à la Visitation 26 rue Daligue à Chartres. Cette intervention se fait dans le cycle de conférences débats du Centre de réflexion chrétienne sur nos identités en question, se replier ou vivre l'ouverture. Vous pouvez aussi vous rendre à l'Esperluette, librairie bien connue à Chartres, le 16 novembre de 17h30 à 19h. Karima Berger dédicacera ses livres. Elle est l'auteur de plusieurs essais, romans et nouvelles, dont Éclat d'Islam, chronique d'un itinéraire spirituel, L'enfant des deux mondes, Toi ma sœur étrangère, écrit avec Christine Rey en 2012, et elle a imaginé dans Les Attentives un dialogue avec Eti Ilsoum. Son roman Mektouba, paru chez Albin Michel, évoque la question de la transmission et l'héritage d'une culture, d'une religion, d'une maison. Elle a publié récemment Égir, chez Actes Sud, dans la collection Le souffle de l'esprit. Dans cet essai, elle nous fait traverser les exils, rencontrer les prophètes fuyant vers leur Dieu, croiser les migrants venus d'Orient et redécouvrir un islam transformé par ses tribulations occidentales. Donc deux moments de rencontre le 16 novembre prochain à Chartres, ils promettent d'être très intéressants. Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission à toute heure sur notre site. Au revoir, chers éditeurs, merci à Simon d'avoir assuré la technique et à bientôt sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes. عيشه أم قتل قلبي به في شغل لا ملذة الشغل قلبي به في شغل لا ملذة الشغل قياده الحب كما قياد راع جمالا قياده الحب كما قياد راع جمالا أعطيته ما سأل حكمته لو عدل وهبته روحي فما أدري به ما فعل وهبته روحي فما أدري به ما فعل